Abbé Faria, de la cause du sommeil lucide. Séance 2, introduction. Un phénomène aussi ancien que le berceau de l'homme est remarqué depuis quelques années en Europe par l'observateur philosophe. Quoique naturel, il le frappe d'étonnement dans son développement et met à la torture son esprit dans la découverte de sa cause. Connu des anciens, du moins dans tout ce qu'il a d'utile à la société humaine, il avait dans l'écoulement des siècles disparu, comme tant d'autres belles inventions de la catégorie des lumières naturelles chez les peuples civilisés. Des nations regardées comme barbares le provoquent à volonté, le cultivent et l'appliquent à différents usages de la vie, sans interruption, depuis un temps immémorial. Ce phénomène consiste à déceler dans certaines personnes, pendant leur sommeil, des propriétés extraordinaires qui n'étaient point à la connaissance des philosophes et des physiologistes. L'une regarde le corps, et l'autre, l'esprit ou l'âme. Celle qui regarde le corps démontre que ces êtres privilégiés dominent, au commandement de celui qui les dirige, sur le mouvement nécessaire, avec la même facilité que celle avec laquelle, dans l'état de veille, on maîtrise le mouvement libre. Celle qui regarde l'esprit développe en eux des connaissances sublimes qu'ils n'ont jamais acquises par l'étude, et qui de plus embrasse tout espace de temps et de lieu, c'est-à-dire le passé, l'avenir et toutes les distances. Elles sont certes souvent mêlées de graves erreurs, mais elles n'atteignent pas moins parfois des vérités constantes. On ne fut en France témoin de ce phénomène que sous l'appareil imposant d'un baquet forgé par Mesmer. Et encore, les effets que ce moyen présenta d'abord à la vue ne s'étendirent qu'à soulager les malades et à les guérir aussi, quelquefois. Le sommeil lucide, qui, dit-on, n'était connu que de Mesmer seul et d'un petit nombre de ses partisans, et qu'on croyait provenir de l'action de cette machine mystérieuse, resta inconnu au public jusqu'au moment où M. le marquis de Puységur en constata l'existence. Ainsi, Mesmer, sans le savoir précisément, ne fit voir le pouvoir de l'homme que sur le mouvement nécessaire du corps, et M. le marquis de Puységur montra le pouvoir de l'homme sur le mouvement nécessaire du corps et sur l'étendue des connaissances extraordinaires de l'esprit. Néanmoins, persuadé que ces effets ne provenaient que de l'influence du baquet, on ne fit nulle différence, de même qu'on n'en fait encore aucune, entre ce qu'une personne éprouvait dans son état de veille et ce qu'elle éprouvait dans son état de sommeil. La conservation de l'action d'une volonté externe et d'un fluide magnétique qui accompagnait les influences du baquet dans le système de Mesmer, n'a rien changé actuellement dans l'abolition de son échafaudage. Elle n'a fait qu'élaguer un superflu remplacé par certains gestes et certains attouchements, et rapporter ses vertus tantôt à ses deux agents, tantôt au premier seul, et tantôt à une chaleur animale. Pour ce qui concerne la sublimité des connaissances de l'âme pendant le sommeil, on croit ne rien hasarder, en avouant que c'est un système impénétrable, quoiqu'il y ait des personnes qui le déduisent d'une volonté externe et d'un fluide magnétique, comme le voulait aussi Mesmer. Cette manière de faire du bien aux malades, et même de leur procurer le sommeil lucide par l'échafaudage d'un baquet, fut d'abord appelée le mesmérisme, du nom de Mesmer. Ensuite, à la suppression des baquets, elle fut nommée le magnétisme animal. La dénomination de mesmérisme, pour caractériser cette action par laquelle on soulage les malades et l'on provoque le sommeil, semble avoir dû être le seul mot propre pour exprimer une idée indéterminée. Parce que n'ayant point de signification précise, il était apte à ajouter à la première idée et même à la changer au besoin en sens contraire. Mais je ne trouve rien qui puisse justifier la dénomination de magnétisme animal pour signifier l'action d'endormir et de procurer un bien-être aux malades. Le mot magnétisme exprime l'action de l'aimant sur le fer, et avec l'addition animale, il peut signifier qu'un aimantisme entre les êtres animés, c'est-à-dire une attraction par laquelle un animal est attiré vers un autre. Y a-t-il quelque chose de semblable entre ces effets et l'action qui, dit-on, provoque le sommeil et procure un bien-être aux malades? Le mot magnétisme animal aurait plus techniquement pu signaler le penchant qui existe entre les deux sexes que ce que trop gratuitement on veut exprimer. L'observation faite sur une personne qui, étant dans le sommeil lucide, suivait à une distance précise tous les mouvements de son directeur, n'est pas suffisante pour justifier une adoption pareille. Outre qu'elle est absolument inexacte, elle est de plus singulière, et par là, dépourvue de tout droit à fixer une dénomination générale. Les plaques et les poudres sympathiques, appelées aussi à juste titre magnétiques, qui avaient contribué à des guérisons miraculeuses et qu'on a évoquées en sa faveur pour justifier l'adoption du mot magnétisme animal, ne prêtent aucun appui à l'inexactitude de la dénomination. Elles avaient une vertu réelle qui attirait les maux des malades par leur force aimantique. A-t-on jamais prouvé qu'il existât une pareille vertu dans les procédés en usage? On n'a fait que la supposer, avec la prétention de donner une démonstration de la cause du sommeil lucide. Nous avons remplacé le mot magnétisme animal par le mot concentration. On verra dans la suite que ce mot renferme dans sa signification naturelle la cause que nous cherchons du sommeil lucide. Ainsi, les mots magnétiseur et magnétisé seront exprimés par les mots concentrateur et concentré. De même, le mot somnambule sera caractérisé par le mot grec épopte, qui signifie celui qui voit tout à découvert. Il était employé dans le même sens qu'on attache au mot somnambule par les anciens dans la célébration de leur mystère, comme nous le verrons par la suite. Il est question ici de connaître l'état de l'âme et non celui du corps comme l'exprime le mot somnambule. On connaît déjà l'acceptation du mot sommeil lucide pour remplacer le mot somnambulisme. Il n'est pas question ici de savoir pourquoi l'on marche dans le sommeil comme exprime ce dernier mot. Cela n'arrive qu'accidentellement aux époptes et à certains époptes. Il s'agit de connaître et de caractériser l'état général de tous dans l'abstraction de leur sens. Je ne puis pas concevoir comment l'espèce humaine fut assez bizarre pour aller chercher la cause de ce phénomène dans un baquet, dans une volonté externe, dans un fluide magnétique, dans une chaleur animale et dans mille autres extravagances ridicules de ce genre, tandis que cette espèce de sommeil est commune à toute la nature humaine par les songes et à tous les individus qui se lèvent, qui marchent ou qui parlent en dormant. Il est vrai que la cause de cet effet était inconnue. Mais il est vrai aussi que cette cause ne peut ni n'a jamais pu être attribuée à ces inventions capricieuses et arbitraires. Il était plus glorieux d'avouer ingénument son ignorance dans l'inutilité de ses recherches que d'induire en erreur la bonne foi par l'orgueil. C'est le vulgaire qui croit qu'un effet naturel qui étonne ne peut provenir que d'une cause compliquée. Le savant qui veut en instruire d'autres ne doit pas ignorer que la marche de la nature est toujours simple et que toutes ses productions ne cessent d'être merveilleuses aux yeux de l'homme dès qu'elles deviennent ordinaires. La source de cette aberration gisait certes dans la persuasion où l'on était que le sommeil lucide avait une nature différente de celle du sommeil habituel. On le pense encore. Et peut-être même généralement en le caractérisant par le nom du sommeil magnétique, pour le distinguer du sommeil naturel. Cependant, la propre expérience a dû dire 100 fois à ces esprits revêches qu'on ne fait pas d'épopte toutes les fois qu'on le veut, mais seulement quand on trouve ces sujets aptes, c'est-à-dire des sujets qui sont déjà des époptes naturelles. On ne produit pas chez eux un sommeil lucide qui n'existait pas. On ne fait que le développer parce qu'il existe déjà en raison des dispositions requises. Toutes les observations déposent jusqu'à l'évidence que le sommeil lucide et le sommeil naturellement profond font une même chose. Ils ne se distinguent entre eux qu'en raison de la direction, de même qu'un épopte nouveau se distingue de lui-même par l'exercice. Du reste, tous les résultats, soit corporels, soit intellectuels, qui dans les époptes de l'un et l'autre genre se distinguent dans le développement de leur étendue, ne se distinguent pas dans le caractère de leur nature. L'observation même démontre qu'aucun des époptes développés, quelque lucides qu'ils aient pu être, n'a jamais fait que des époptes naturelles ont parfois exécuté, comme de parler des langues étrangères avec toute la facilité propre aux seuls indigènes. Je ne cite que cette seule particularité pour éviter d'entrer ici dans les détails des autres branches de leur lucidité. en indiquant comme cause du sommeil lucide la concentration que nous avons substituée au mot magnétisme, nous n'avons voulu que signaler la cause immédiate qui provoque le sommeil en général. La concentration n'est qu'une abstraction des sens, et l'on ne s'endort pas tant que l'esprit est occupé, soit par l'agitation du sang, soit par des inquiétudes, ou par des soucis, ou par une certaine densité dans ce fluide qui empêche également l'esprit d'être dans l'apathie. Les sommeils ont leurs nuances et leurs degrés. Celui qui est le plus profond est ce que nous avons appelé le sommeil lucide. Ce sommeil n'existe qu'avec une extrême liquidité du sang, et cette liquidité ayant ses degrés particuliers, le sommeil lucide aussi à son échelle de perfection. Toutes les fois que nous parlerons simplement de la liquidité du sang, nous prévenons que nous n'entendons énoncer que cette liquidité qui est extraordinaire dans ce fluide et qui s'oppose aussi à sa densité extraordinaire. La liquidité dans le sang contribue non seulement à la profondeur du sommeil, mais aussi à sa promptitude. Cette liquidité du sang n'est qu'une marque de sa faiblesse. Et l'expérience m'a fait voir que l'extraction d'une certaine dose de ce fluide rendait épopte dans 24 heures ceux qui n'y avaient aucune disposition antérieure. Voilà la véritable cause de ce qu'on appelle le somnambulisme naturel. Cause jusqu'à présent regardée comme mystérieuse parmi les enfants d'Esculape. Il est clair maintenant qu'en épaississant le sang par quelques tisanes fortifiantes, on peut détruire cet état du somnambulisme naturel, qui présente tant de dangers pour la vie. Le sang n'est pas extraordinairement liquide, qu'autant qu'il est extraordinairement faible. La promptitude du sommeil ne tient à la liquidité du sang que parce que cet état dépend du calme, et le calme de la liquidité. Deux tasses pleines, l'une d'eau et l'autre de chocolat, également bouillantes et exposées à l'air en même temps, se refroidiront, c'est-à-dire se calmeront, en des temps différents. Le refroidissement de la première sera plus prompt que celui de la seconde, par la seule raison que la substance qu'elle contient est plus liquide que l'autre. Le sang liquide est aussi facile à s'exciter qu'à se calmer. Et en raison de cette propriété, il se trouve être plus subordonné à l'influence de la volonté propre que le sang épais. Pour peu qu'un épopte soit exempt d'agitation, de chagrin, d'inquiétude, il doit donc calmer son sang aussitôt qu'il le veut, et conséquemment dormir. La force de l'empire absolu de la volonté propre sur le sang de cette nature, et conséquemment sur toutes les parties du corps, est une vérité qui sera évidemment développée dans la suite même de l'introduction. Le sommeil que provoque la lassitude a un autre caractère que le sommeil ordinaire. Celui-ci est libre et l'autre est nécessaire. Néanmoins, l'un et l'autre sont les mêmes dans leur nature, quoiqu'ils diffèrent dans leur cause médiate. Toute espèce de sommeil suit toujours une transpiration humide ou sèche, conséquemment sensible ou imperceptible. Elle affaiblit la tension des muscles et par là, elle entrave le jeu des ressorts des membres externes. La transpiration par la fatigue étant beaucoup plus abondante, elle produit aussi dans les muscles une faiblesse beaucoup plus accablante. Et c'est ce qui exprime la nature de la lassitude. Les muscles épuisés fléchissent les uns sur les autres et privent les membres de la faculté d'exercer leurs fonctions ordinaires. Le sang, qui par le mouvement régulier du travail a été délié, tend graduellement au calme. L'esprit, qui est essentiellement actif, ne trouve plus de souplesse dans la désobéissance des nerfs, seul messager de ses ordres, et se voit forcé à une apathie violente. Mais, comme un défenseur vigilant, il se plie à la satisfaction de ses besoins ainsi qu'aux besoins d'une partie de son individu. Voilà comment une concentration nécessaire dans ses causes médiates devient volontaire par la suite, et pourquoi un sommeil qui est le même quant à la nature des autres sommeils a un caractère particulier qui le distingue. La personne lasse ne cherche plus que le moment de se concentrer pour dormir, non seulement pour obéir à la loi impérieuse de la nécessité, mais plus encore pour se procurer une jouissance délicieuse, préférable à toutes ces jouissances connues. Toutes les causes médiates étant déjà disposées ainsi pour produire le sommeil, la personne harassée de fatigue n'a plus qu'à vouloir dormir sans redouter des entraves qui s'opposent à sa résolution, et elle dort aussitôt qu'elle se concentre. Il est à remarquer ici que toutes les privations forcées que l'homme éprouve de ses jouissances ordinaires se convertissent pour lui en plaisir et en agrément dès que la nature les commande pour le motif direct ou indirect de la conservation de son individu. Un goutteux voudrait bien se livrer à l'exercice de ses membres comme le commun de ses semblables, mais prévoyant la peine qui doit chez lui accompagner cette satisfaction, il préfère avec plaisir son état de repos à l'usage et au mouvement de ses membres. Il en est même d'un gourmand qui, par une indisposition, se sent maîtrisé par la nausée des aliments, et d'un jeune homme dissipé qui, passant les nuits au bal et au jeu, se voit entraîné au repos par le sommeil. C'est pour cette raison que même toutes les autres opérations nécessaires de la nature ne sont jamais exemptes d'une certaine volupté. Et par là, elles se rendent toujours conformes à la volonté parce qu'elles tendent toujours à la conservation de l'individu. Cependant, il est toujours vrai que le sommeil naturel, tout en contribuant au bien-être de l'espèce humaine, ne lui fait pas le même bien que le sommeil provoqué par l'art. Les époptes mêmes, en mettant une énorme différence entre l'un et l'autre, conviennent de la vérité de cette observation déjà trop fortifiée par l'expérience. Mais il faut remarquer que cette différence existe réellement dans le motif du sommeil et non dans la nature. Celui qui dort naturellement la nuit ne pense en se livrant au sommeil qu'à satisfaire un besoin d'habitude, comme à toute l'espèce humaine, au lieu que celui qui dort y étant engagé ne se livre au sommeil que pour être utile à lui-même ou à d'autres. Ainsi, il en résulte qu'il remplit sa tâche et atteint son but, et lorsqu'il allie à ce motif principal d'autres motifs particuliers, d'une crainte panique et d'inquiétude chimérique, il s'agite dans son sommeil et en trouble le calme naturel. Ce dernier effet, qui est presque commun à tous les époptes dans leur premier sommeil, se dissipe ensuite avec le temps lorsque, par leur propre expérience, ils apprennent que ce qu'ils redoutaient au commencement n'était qu'une vaine appréhension dépouillée de tout motif réel. Voilà la source de la différence que trouvent les époptes entre l'un et l'autre sommeil. Toutefois, pour sentir l'erreur de leur prévention à ce sujet, on n'a qu'à comparer leur sommeil habituel de nuit avec le sommeil développé par l'art, et l'on verra qu'ils sont également aptes à remplir dans l'un et l'autre toutes les fonctions utiles à eux-mêmes et à d'autres. Leur sommeil naturel et leur sommeil provoqué n'ont donc entre eux aucune différence réelle. La raison pour laquelle le sommeil naturel ne fait pas le même bien que le sommeil provoqué gît dans la différence même du motif de l'un et de l'autre. Nous la développerons amplement dans la suite en indiquant simplement ici que c'est elle qui fait le sujet de cet ouvrage. Le sommeil naturel néanmoins produit toujours du bien et en réparant les forces perdues de la veille. Mais ce bien n'est jamais égal au dommage, et par le défaut de motifs requis, et par la différence de son caractère. C'est la réunion du reste de ces petits maux non réparés qui fait dans la suite des explosions proportionnées à leur nature par des maladies ou éphémères ou chroniques. Cependant, ce n'est pas à dire que le sommeil lucide répare les maux comme s'ils n'eussent jamais existé. Tout mal, même léger qu'il soit, détraque toujours la machine d'une manière irréparable. Et c'est de là que résulte la dissolution finale. Le sommeil lucide répare ces maux autant qu'ils peuvent être réparés et recule cette catastrophe qui doit enfin abattre l'homme pour l'éteindre. On peut maintenant comprendre aisément la raison pour laquelle on ne peut pas procurer le même bien-être aux malades qui ont et à ceux qui n'ont point de disposition au sommeil lucide par une action externe qui a été appelée magnétisme animal et que nous caractérisons du mot de concentration. Ce bien-être entre ces différents malades est le même à peu près que celui qui résulte du sommeil lucide provoqué et du sommeil naturel. L'un et l'autre font toujours du bien, mais en mesures différentes. Quoique dans la concentration des malades qui n'ont point les dispositions requises, il y ait toujours le même motif de direction externe que dans la concentration des malades qui sont aptes au sommeil lucide, néanmoins, ce motif n'agit pas de même indistinctement sur eux, par des causes qui seront développées par la suite, et qui sont différentes dans les uns et dans les autres. Toutefois, la concentration peut opérer une guérison complète des malades privés des dispositions requises, mais à la longue et avec beaucoup de temps, au lieu qu'elle en opère une plus prompte dans les malades qui sont aptes au sommeil lucide. Le bien-être dans les malades privés des dispositions requises a toujours une progression graduelle, en raison du motif de la direction dans la concentration, progression qui n'existe pas dans le sommeil naturel, par l'absence de ce même motif, et c'est seulement ce qui fait la différence. Différence à la vérité extrêmement sensible, entre le bien-être provenant de la concentration des malades sans disposition et le bien-être provenant du sommeil naturel. Le bien-être provenant de la concentration des malades aptes au sommeil lucide est extrêmement prompt et décisif. Souvent, il est sensible avant 24 heures, et même au bout de 2 heures et d'une heure. Ces effets ont besoin de leur être annoncés d'avance, sous peine d'être réduits à ne se développer qu'avec lenteur et dans une progression graduelle. Et c'est ce qui mène à la connaissance de la cause précise de la concentration et du sommeil lucide, avec tous ses accessoires. Il ne faut pas croire que les malades de cette espèce aient besoin de se trouver dans le sommeil pour jouir de ses effets. Ils les éprouvent dans le plein état de veille, pourvu qu'ils aient dormi une seule fois du sommeil lucide. Autrement, avec toute leur aptitude, ils ne les éprouvent que par une graduation lente, mais plus prompte que celle par laquelle s'améliorent et se guérissent les malades qui n'ont point les dispositions requises. Ce qui sera développé dans la suite fera complètement connaître la raison pour laquelle les époptes, aptes au sommeil, ont besoin d'être instruits d'avance de ce qu'ils doivent éprouver pour l'amélioration de leur état de maladie et pour le rétablissement de leur santé. La promptitude avec laquelle les malades aptes au sommeil lucide éprouvent ces effets salutaires, et d'autres qui seront détaillés dans la suite, exigent toujours une concentration, même dans l'état de veille. La concentration doit être envisagée sous trois points de vue. Elle peut être libre, occasionnelle ou nécessaire. La concentration libre est une abstraction des sens, provoquée au gré et à volonté avec la restriction de la liberté interne. Elle est commune à tout individu qui dort toutes les nuits et qui, sans dormir, se distrait de tout objet sensible ou intellectuel pour ne s'occuper que d'un seul. Dans ce dernier cas, la liberté interne n'éprouve pas, à la vérité, de dommage, mais aussi cette concentration n'est pas telle dans toute la rigueur de son acception. Lorsque le sommeil ordinaire n'est pas une suite de la concentration libre, il annonce l'existence d'obstacles indépendants de l'empire de la volonté. Tels sont l'épaisseur du sang, les inquiétudes, les chagrins, les agitations. Du reste, on ne s'endort que parce qu'on le veut. Et si l'on ne s'endort pas toujours aussitôt qu'on le veut, c'est qu'on n'a pas dans le sang les dispositions requises pour le mettre dans le calme. La concentration occasionnelle est aussi une abstraction des sens provoquée au gré et à volonté avec la restriction de la liberté interne. Mais en raison d'un motif fourni par une influence externe, elle ne convient qu'aux personnes qui ont le sang extrêmement liquide. Par elle, on dort quand on le veut, toutes les fois que l'influence externe fournit le motif. Voilà la cause immédiate du sommeil lucide. Toutes les fois qu'un épopte dort au commandement, il ne dort que parce qu'il le veut, mais prévenu qu'il ne dort que par la force et l'influence du motif. Aussi, il doit, loin du concentrateur, dormir à l'heure dite et au signe donné, comme de toucher à un de ses doigts, de regarder une bague, de penser à son directeur. L'épopte ignore l'existence de la faculté de dormir à volonté en lui-même. Il pense qu'on ne doit dormir qu'aux heures précises, et dans son lit, d'après l'usage de toute l'espèce humaine, malgré les exemples fréquents qui lui montrent que souvent on s'endort sur un fauteuil, dans le coin d'un salon, et au milieu des cercles. C'est pour cette raison que d'ordinaire il lui faut un motif qui l'engage au sommeil. Cependant, il est des époptes qui, étant instruits de l'existence de ce pouvoir en eux-mêmes, s'endorment aussitôt et chaque fois qu'ils le veulent, sans aucun motif fourni par une influence externe. La concentration nécessaire est aussi une abstraction des sens avec la restriction de la liberté interne, mais provoquée immédiatement par une cause interne indépendante de tout empire de la volonté propre. Elle ne convient qu'aux personnes évanouies et aux cataleptiques. Cette concentration provient de causes absolument contraires à celles de la concentration précédente, et elle en diffère aussi dans ses effets corporels et intellectuels, quoique ceux-ci aient l'apparence d'être les mêmes que ceux de l'intuition des époptes. L'intuition des personnes évanouies et des cataleptiques, dont nous exposerons incessamment la signification, est beaucoup plus précise et plus étendue que l'intuition des époptes. Sitôt qu'on est apte à la concentration occasionnelle, on est apte aussi à jouir de l'intuition et à maîtriser tout mouvement nécessaire du corps à la volonté du concentrateur. C'est la raison pour laquelle nous avons intitulé cet ouvrage « De la cause du sommeil lucide et de ses accessoires » et non de ses effets, parce que la faculté de jouir de l'intuition et de maîtriser tout mouvement nécessaire du corps existe déjà avant le sommeil lucide sous des conditions déterminées, c'est-à-dire dans les parties seulement où le sang est liquide. Aussi, tout épopte jouit de l'intuition dans son état de veille et de la faculté de maîtriser le mouvement nécessaire du corps, surtout après le premier sommeil. Je dis surtout après le premier sommeil, parce que la confiance d'où dérive l'exercice de ces facultés n'existe pas en général dans les personnes qui ont des dispositions requises au sommeil lucide et qui n'ont pas dormi occasionnellement. Cependant, il y en a qui exercent aussi ces facultés sans jamais avoir dormi et sans pouvoir même le faire. Cet exercice hors du sommeil n'est pas néanmoins aussi complet que dans le sommeil, soit en ce qui concerne l'intuition, soit en ce qui concerne l'empire sur le mouvement du corps. L'expérience démontre que la confiance qui règle la facilité de cet exercice ne s'établit en général que par le sommeil. Et plus elle se consolide par la répétition des actes, plus elle rend usuelle la jouissance de ses facultés. Nous verrons dans la suite que, si nulle confiance ne se commande, celle qui préside à l'économie de la conduite des époptes est encore plus indépendante de toute influence. Elle provient absolument de la liquidité du sang et s'accommode à ses degrés et à ses nuances, de même qu'elle disparaît et s'évanouit avec elle. Ceux qui n'ont jamais dormi du sommeil lucide par occasion et qui cependant y ont des dispositions requises exercent quelquefois naturellement ces facultés sans s'en douter, mais ils regardent celles qui concernent le corps comme une indisposition réelle et celles qui concernent l'esprit comme une illusion des sens. C'est ce qui, par une expression banale, est appelé dans le premier cas une maladie imaginaire et dans le second des chimères de l'imagination. Cependant, ce ne sont souvent rien moins que des avis réels de vérité exacte, plus proprement caractérisés par des personnes sensées sous la dénomination de présensations et de pressentiments. Il est dans l'ordre qu'étant prévenu que rien dans le monde ne peut maîtriser le mouvement nécessaire du corps sans violence, et que rien de même ne peut fournir des connaissances à l'esprit sans une action réelle des objets présents sur les sens, on regarde ces effets comme indépendants de sa volonté et comme tout à fait étrangers à sa propre influence. Mais n'est-ce pas un paradoxe que de dire qu'on influe sur ses propres actions et qu'on ignore sa propre influence ? Non ! C'est une vérité exacte, mais peu remarquée par les physiologistes et les philosophes. Avant de la développer, il faut expliquer ici ce que c'est que l'intuition, la lucidité et les différents états de l'âme humaine. L'intuition, en général, est une jouissance simultanée des fonctions semblables à celles des cinq sens et au-delà, sans entrave d'aucune distance de temps ni de lieu. C'est dire qu'elle atteint toutes les propriétés des corps qui sont accessibles à l'homme et beaucoup d'autres qui lui sont inaccessibles sans que le passé, l'avenir et l'éloignement y mettent le moindre obstacle. La lucidité, en général, est une faculté d'appliquer conséquemment à un but les connaissances intuitives. Et elle est à l'intuition ce que la raison est aux connaissances sensitives. L'intuition et conséquemment la lucidité ne sont pas dans les époptes les mêmes que dans les purs esprits, indépendants de toute influence de la matière. Dans ceux-ci, elles sont pures et infaillibles. Dans cela, elles sont mixtes et sujettes aux erreurs. Il est aisé de sentir que dans les époptes, la spiritualité à laquelle elle appartient est soumise aux influences de la matière. Aussi, chez eux, l'intuition ne remplit ses fonctions que par l'intermédiaire des espèces, c'est-à-dire des images, de la même manière à peu près que les sensations dans l'état naturel de l'homme, au lieu que dans les esprits en raison de leur indépendance de toute matière, l'intuition tend à atteindre les objets soit intellectuels, soit matériels, d'une manière tout à fait différente de celle qui convient aux époptes. L'homme la sent seulement par la raison, mais il est hors d'état de la concevoir par son intelligence. La spiritualité assujettie aux influences de la matière n'est donc qu'un moyen de rapprocher du physique le surnaturel, comme nous l'approfondirons incessamment pour mettre toute la netteté dans les termes qui expriment les idées. Elle jouit de tout ce qui convient à l'esprit, comme esprit, sans se dégager de ce qui convient à l'esprit enveloppé dans la matière et soumise à l'intermédiaire des sens. Ainsi, l'épopte dévoile le passé, découvre à distance et prévoit l'avenir comme esprit, mais avec des espèces et non autrement comme homme. C'est ce qui nous force d'introduire ici la distinction entre l'une et l'autre intuition. Nous appellerons intuition mixte celle qui convient aux époptes et intuition pure celle qui convient aux esprits. Nous n'emploierons ces additions que précisément lorsqu'il faudra faire cette différence entre l'une et l'autre intuition. Autrement, la simple énonciation d'intuition dans les époptes n'exprimera toujours que l'intuition mixte. Nous prévenons de même que la simple énonciation d'époptes n'exprimera qu'un épopte développé par l'art. Autrement, il sera caractérisé avec l'addition de naturel ou d'occasionnel. Les différents états de l'âme humaine se réduisent à trois modifications marquées qui ne se confondent pas entre elles. Ce sont la modification intuitive pure, la modification sensitive et la modification intuitive mixte. L'âme humaine, étant par sa nature spirituelle et immortelle, elle doit nécessairement avoir, après sa séparation d'avec le corps, un état d'existence commune aux esprits. Voilà la modification intuitive pure de l'âme humaine. Nous ne pouvons que conjecturer négativement cet état sans pouvoir dire ce qu'il est précisément dans sa nature et dans son exercice. Jouissant essentiellement d'une science infuse, elle sera alors exempte de toute erreur. Néanmoins, ses connaissances auront des bornes marquées dans son rang, dans l'ordre intellectuel et sous une mesure dont est susceptible sa nature. Nous savons de plus que cette substance intelligente, devant être indépendante de tout intermédiaire des sens, ne pourra plus former les idées des objets sensibles qu'avec une exactitude qui réponde à la réalité et non par des espèces qui dérogent toujours à leur nature par des additions ou des soustractions. Par là, nous pouvons relever avec certitude l'absurdité de l'opinion de Socrate et de Platon sur la préexistence des âmes humaines avant les corps qu'elles informent ou qu'elles ont informés. Un esprit doit avoir essentiellement des intellections pures, non celles que les écoles attribuent à l'âme humaine pendant son union avec le corps, mais celles qu'exprime le mot, c'est-à-dire exempte de toute espèce ou image. Cette manière de s'énoncer des écoles était plutôt une déclaration de ce qui convient à un pur esprit qu'un développement de ce qui peut convenir à l'âme humaine pendant son union avec le corps. L'âme humaine, chez l'homme naturel, n'a aucune idée qui n'y soit entrée médiatement ou immédiatement par les sens. Celle-même qui, comme infuse, se développe par son intuition mixte sans être entrée par les sens, porte toujours les marques des idées sensibles. Les intellections pures sont donc tout à fait incompatibles avec l'âme humaine dans son état d'union avec le corps. Mais un esprit qui a préexisté au corps qui l'informe n'a dû former les idées que par des intellections pures. Il répugnait à sa nature d'en former par des espèces ou des images, étant exempt de toute influence de la matière. Qui peut empêcher que cet esprit ne forme les mêmes idées qui lui sont naturelles par le moyen de la concentration après son union à la matière, s'il a préexisté au corps qui l'informe? Étant donc vrai que l'âme humaine n'a aucune idée qui ne soit sensible, même de celles qui ne sont nullement entrées par les sens, il est vrai aussi que l'âme humaine n'a jamais pensé que par l'intermédiaire des sens, et que la décision de l'Église qui établit que l'âme humaine n'a commencé à exister qu'après le corps ne répugne pas à la raison naturelle dûment consultée. La modification sensitive de l'âme humaine est ce qui constitue l'état naturel de l'homme ou son état de sensation. Elle ne lui fournit les idées que par les sens et ne lui convient que dans son état de veille. L'âme humaine, malgré toute sa science infuse et ses autres propriétés sublimes, n'en règle les actions que par les seules idées acquises par cette modification. Il est clair que des préjugés et des erreurs qui en sont aussi un partage indispensable, y tiennent souvent pour elle le rang de vérité démontrée. Il n'y a que la rectitude de ses intentions qui puisse justifier ses écarts et ses égarements. Il est aisé de concevoir maintenant que la différence de la somme d'idées chez les hommes ne dérive que de la différence de leurs travaux, de leurs études et de leurs méditations, quoique l'âme soit également savante chez tous dans sa modification intuitive. Je dois même ajouter aussi que la différence de la somme d'idées dérive de la différence de leur complexion, parce que l'harmonie des solides et la pureté des fluides influent beaucoup sur la facilité de l'intelligence. Aussi, deux enfants de différentes complexions avec une égale application ne profitent jamais d'eux-mêmes. Si l'homme ne connaît que ce qu'il a acquis par les sens, il est clair qu'il doit ignorer tout ce qui passe dans l'âme dans sa modification intuitive, quoique celle-ci puisse y savoir tout ce qui se passe dans l'homme. Je dis que l'âme peut le savoir, mais elle ne le sait pas toujours, parce que n'y jouissant point de toute sa liberté interne, elle ne peut pas replier son attention sur toutes les actions singulières. Parfois même, elle ne conserve aucune idée de celles d'entre elles qui n'ont pas attiré l'attention sérieuse de l'homme. Toutefois, elle peut, par une réflexion profonde, les atteindre toutes par la science infuse. Lorsque des idées intuitives deviennent sensitives, ce qui arrive très souvent par des présensations, les pressentiments et les songes, elles n'influent sur l'homme que comme des chimères, ainsi que nous l'avons déjà observé plus haut. D'après ces notions, il est aisé de voir que l'opinion de Locke, qui prétend que toutes les idées de l'homme dérivent immédiatement des sens externes, et que celles de Descartes qui enseignent qu'il en est chez lui, qui sont innées, sont également fausses. Quoi que nous ayons dit de l'âme n'a commencé à penser que par les espèces, c'est-à-dire d'une manière sensible. Néanmoins, il faut savoir que ces sensations sont indépendantes de toute impression externe et que ces idées, quoique infuses, ne viennent jamais naturellement dans l'usage de la règle de la vie humaine. La modification intuitive mixte de l'âme est cet état de sommeil lucide où l'homme, dégagé des sens, jouit des connaissances sublimes qu'il n'a jamais acquises par l'étude. C'est un développement de cette science infuse qui convient à tout l'esprit, mais qui n'est pas exempte d'erreurs en raison de l'influence de l'enveloppe sur cette substance merveilleuse. Cette intuition est de même nature que l'intuition pure. Elle n'en diffère que dans le mode de représentation des objets. Elle en forme des idées par les espèces qui sont la cause de ses erreurs, au lieu que d'autres les forment toujours sans espèces et se rendent infaillibles. On voit par là que c'est un état intermédiaire entre l'homme sensitif et le pur esprit, parce qu'il participe des propriétés de l'un et de l'autre et montre qu'un esprit dans sa pure nature appartient à l'ordre intellectuel et peut aussi appartenir à l'ordre physique. étant assujetti aux influences de la matière. Cette intuition mixte est ce moyen qui, dégagé de ses défauts et de ses imperfections, nous mène, comme par la main, à connaître les propriétés de l'âme comme pur esprit, beaucoup plus solidement que tous les raisonnements plausibles des philosophes. Ceux-ci n'avaient vu dans l'homme que ce qu'ils voyaient en eux-mêmes, et l'observation nous démontre que dans les perceptions d'un autre genre que celle qu'il a dans son état sensitif, il recèle, sans nullement s'en douter, beaucoup plus de motifs de surprise et d'admiration qu'il n'en étale. La barrière qui sépare l'état d'intuition mixte avec l'état de sensation n'est pas telle qu'elle ne puisse être franchie dans l'état de veille sans tomber dans le sommeil lucide. Toute personne susceptible d'une profonde abstraction des sens, comme le sont les époptes et les cataleptiques, jouit de la faculté de passer à son gré de l'état sensitif à l'état intuitif par la concentration, ainsi que nous l'avons déjà observé plus haut. Mais il faut, dans ces tentatives, renoncer autant que faire se peut à l'attention sur les sensations externes et sur les distractions internes. Toutefois, l'intuition qui résulte de cet effort n'est jamais aussi parfaite que celle qui se développe dans le sommeil, parce que l'abstraction des sens à laquelle elle est proportionnée n'y est jamais aussi profonde que dans ces états de calme. C'est pour cette raison que nous avons dit que les idées intuitives ne passent jamais naturellement dans l'usage de la règle de la vie humaine. Et lorsqu'elles influencent sur l'état sensitif, elles n'y existent que comme une impulsion d'instinct, plutôt que comme des principes qui dirigent la conduite. Les idées sensitives passent plus facilement dans les idées intuitives lorsque se sont attirées une attention sérieuse de l'homme, et non autrement. Pour reprendre le cours de notre marche, nous finirons cette séance en donnant une idée précise de ce que c'est que l'ordre physique, ainsi que nous nous sommes engagés à le faire plus haut. Le physique, dans sa signification étymologique et dans son acception philosophique, n'exprime que le naturel et non le sensible ou le matériel. Ainsi, l'homme, composé de deux substances, l'une matérielle et l'autre spirituelle, étant un être naturel, est une partie et une partie la plus noble de l'ordre physique. Il serait ridicule de dire que les parties n'appartiennent pas au même ordre auquel appartiennent leur tout. Aussi, les métaphysiciens ont, dans tous les temps, appelé influence physique l'action de l'âme sur le corps dans leur commerce mutuel, c'est-à-dire influence réelle et naturelle et non sensible et matérielle, et concours physique l'action de la première cause pour la conservation de l'univers. Si la philosophie a refondu dans la métaphysique la recherche de la nature de l'âme humaine, c'est qu'elle a considéré non comme une partie de l'homme, mais comme un esprit de l'ordre intellectuel, parce qu'elle y appartient par sa nature, en même temps qu'il appartient aussi à l'ordre physique par sa condition. Cet ordre, qui est essentiellement susceptible de changements de forme et de disposition, ne convient plus à un être simple, intelligent et indestructible. L'âme humaine, sous différents points de considération, est donc à la fois un être physique et surnaturel. Lors donc qu'on dit vulgairement que le physique agit sur le moral et le moral sur le physique, on abuse non seulement des mots, mais aussi des idées. Le moral signifie ce qui appartient aux mœurs et s'oppose à l'immoral. Le sensible est ce qui est susceptible de tomber sous les sens, et le matériel, ce qui est étendu et divisible. Et l'un et l'autre s'opposent au spirituel et à l'intellectuel. Le physique signifie ce qui est naturel et s'oppose au surnaturel. Le moral, le physique et le métaphysique font une gradation et non une opposition. Ainsi, l'on appelle certitude morale celle qui l'est dans les mœurs des hommes d'admettre comme une règle de conduite. Certitude physique, celle qui s'attache à la constance des lois de la nature, et enfin, certitude métaphysique, celle qui étant supérieure à la stabilité des lois de la nature, n'existe pas dans la nature et n'est accessible qu'à la seule conception. Le moral, dans l'acceptation naturelle, a donc son degré au-dessous de celui du physique, et celui au-dessous du degré du métaphysique. Toutes les fois qu'on dit donc que le moral agit sur le physique, on ne fait rien moins que dénoncer qu'il est quelque chose qui agit sur le corps et qui est au-dessous de la matière. Veut-on dire par là que l'âme humaine, à qui fait allusion le mot moral, n'a même pas le mérite d'être au niveau de la matière? Je crois que ce sens n'est attaché au mot moral que par des efforts du philosophisme pour élaguer du langage toute idée du spirituel.